France Culture.
Talmudique. Annette Vivorca, bonjour.
Bonjour Marc Alain.
Annette Vivorca, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre conversation que nous avons commencé la semaine dernière autour de votre livre Itinérance. Nous avons alors découvert votre travail d'historienne, vos maîtres, votre méthode, les sujets et les problématiques que vous avez abordés pendant plus de 4 décennies, à savoir comment la mémoire s'est faite objet d'histoire. Nous poursuivrons aujourd'hui avec un volet plus personnel et plus familial en explorant avec vous quelques allées de votre ouvrage intitulé « Tombeau ». Autobiographie d'une famille, paru aux éditions du Seuil en 2022 et pour lequel vous avez reçu le prix Femina Essai la même année. Et pour commencer, j'aimerais vous faire entendre un peu de musique que je vous demanderai ensuite de commenter. Nous sommes en train d'entendre le tombeau de Couperin de Ravel, une œuvre emblématique de la Première Guerre mondiale, composée entre 1914 et 1917 et interprétée ici par l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec Hélène Collerette au violon sous la direction de Pascal Roffet et présentée par Jean-François Sigel dans son émission toujours remarquable, Les Clés de l'Orchestre. C'est inattendu et pourtant c'est peut-être une belle porte d'entrée dans l'univers de votre livre, à commencer par en comprendre le titre, Annette Vivorca.
Oui, le titre, je ne l'ai pas emprunté à la musique, mais à la littérature. Et en fait, un tombeau littéraire ou un tombeau musical, c'est la même chose. C'est une pièce qui est écrite pour honorer les défunts. Et Maurice Ravel honore dans le tombeau de Couperin ses camarades soldats de 14-18 morts au combat. Chaque mouvement, il égrène les noms de ses camarades. Et le tombeau littéraire, c'était pendant la Renaissance quelque chose pour les très grands. Et puis c'est redevenu d'actualité, et notamment le tombeau de Baudelaire par Mallarmé. Et c'est ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, ce qui est curieux quand j'y repense, c'est que ce titre s'est imposé à moi non pas par rapport aux membres de ma famille morts, assassinés pendant la Shoah, mais pour une tante que j'ai très très bien connue, qui est décédée à plus de 90 ans, Berthe Bernemann, la sœur aînée de ma mère, parce qu'elle est décédée sans descendance et sans œuvre. Et qu'au moment de son décès, j'ai eu le sentiment que sa mémoire allait être effacée. Et l'idée du tombeau, c'est une sorte de résistance à l'oubli, à l'effacement.
Alors vous parlez dans ce livre qui s'appelle « Tombeau, autobiographie de ma famille ». Vous venez de le dire à l'instant, ça commence par évoquer la figure de votre tante, Berthe. Et ça termine aussi par un chapitre consacré à cette même personne. Pourquoi cette structure enchâssée dans la figure de ce personnage de Berthe, en dehors du fait que vous venez de dire qu'elle n'a pas de descendance?
Parce que, comme dans toutes les familles, il y avait un secret. Et que le secret concernait Berthe. Et ce secret, c'était un avortement clandestin, puisque c'était nécessairement clandestin, effectué à juste après la libération, parce que le médecin avait été trouvé de façon assez incroyable par mon père et d'autres, et que ce médecin, il l'avait connu parce qu'il fréquentait à la fin des années 20 le restaurant, si on peut appeler ça un restaurant, que mes grands-parents avaient ouvert et qui était une sorte de cantine pour étudiants désargentés. Donc le médecin qui a fait l'avortement était un de ces étudiants en médecine polonais désargentés et pour écrivains et intellectuels précaires. Vous savez, dans un récit, il y a une part de construction. Et cette histoire de Berthe Et cette histoire d'avortement 46, c'est à l'année de la naissance de mon frère aîné, qui me permettait de relier les deux branches de ma famille, la branche Perelman et la branche Vieviorca.
Alors, on va y revenir parce que c'est l'histoire justement de votre famille. Et ce livre raconte sur plusieurs générations la vie des deux familles, celle de votre père et celle de votre mère, la famille Vieviorca et la famille Perelman, vous l'avez dit, toutes deux originaires de Pologne. Un livre qui se situe à la frontière entre votre travail d'historienne et un récit personnel. Seriez-vous d'accord d'en situer l'écriture dans le courant de l'égo-histoire que Pierre Nora définissait ainsi en 1987 ? L'égo-histoire, un genre nouveau pour un nouvel âge de la conscience historique, ni autobiographie faussement littéraire, ni confession inutilement intime, ni profession de foi abstraite, ni tentative de psychanalyse sauvage. L'exercice consiste à éclairer sa propre histoire, comme on ferait l'histoire d'un autre, à essayer d'appliquer à soi-même, chacun dans son style et avec les méthodes qui lui sont chères, le regard froid, englobant, explicatif qu'on a si souvent porté sur d'autres, d'expliciter en historien le lien entre l'histoire qu'on a faite et l'histoire qui vous a fait. Annette Vieviorca.
Bon, c'est très beau ce texte de Pierre Nora. Donc la réponse est oui et non. Oui, parce que j'ai fait ce qu'il explique à la fin, c'est-à-dire que j'ai appliqué à ma famille les méthodes et la distance que j'applique ou que je mets dans les autres sujets. Non, parce que même si je me mets un peu en scène, et c'est la signification de autobiographie de ma famille, si j'adopte un point de vue qui est le mien, je pense que si un cousin ou un frère ou une sœur avait fait ce livre, ça n'aurait pas été le même. Donc j'assume une part de subjectivité. Ce n'est pas un livre où j'explicite réellement ce qui m'a fait l'historienne que je suis, même si on peut le deviner. J'ai voulu quand même dégager tout l'espace pour ces gens, certains que j'ai connus et d'autres que je n'ai pas connus.
Que vous n'avez pas connus et dont vous avez cherché dans les archives l'histoire. Je viens d'évoquer Pierre Nora et l'égo-histoire. Peut-être que votre livre est aussi proche théoriquement de Philippe le Jeune et de la question de l'autobiographie qui est au centre de ses recherches et de son militantisme littéraire, comme vous l'évoquez dans l'article que vous lui consacrez dans Itinérance, le livre dont nous avons parlé la semaine dernière, Annette Vieviorca. Je pense que Philippe le Jeune a une place très chère dans votre panthéon d'historienne.
Absolument, absolument. Le premier travail d'historienne que j'ai accompli, c'est ce travail avec Yitzhak Niborski sur les livres du souvenir. Et ça a été très difficile. On était tous les deux beaucoup plus jeunes, 83, donc je laisse les auditeurs calculer, sans beaucoup d'expérience, et dans une période où, sur les questions de mémoire, il n'y avait rien, presque rien. Il y avait Maurice Alvax, bien évidemment. Et il y avait encore Pierre Nora, qui en était à ses balbutiements, les entretiens dans la nouvelle revue de psychanalyse que Pierre Nora avait eu avec J.B. Pantalis sur les questions de mémoire collective. Donc, j'ai tâtonné parce que j'avais besoin quand même que d'autres m'aident à penser. Mmh. Et le premier qui m'a aidé à penser, c'est-à-dire le premier colloque auquel j'ai assisté, ça a été Philippe le Jeune. Je pense que c'était l'époque où il avait écrit « Je est un autre, le pacte autobiographique ». Et d'ailleurs, je reproduis un des articles de Pardès que j'appelle « Je est un autre, l'identité transférée sur les rapports entre la judéité et le communisme ». Donc je dois beaucoup à Philippe le Jeune et je dois aussi la revue L'Histoire, parce que c'est elle qui m'a permis d'aller faire un portrait de Philippe le Jeune il n'y a pas tellement d'années, il y a quelques années, et j'étais contente de pouvoir parler avec lui. C'est un homme merveilleux et qui a effectivement consacré sa vie aux écritures de soi et qui a créé ces archives à Ambérieu incroyables. Quoi.
Comment vous définiriez plus précisément son travail, ce pacte autobiographique que vous avez repris pour vos propres recherches?
Ce pacte autobiographique, c'est finalement le pacte avec le lecteur. C'est-à-dire que c'est un pacte qui dit qu'on va dire la vérité. Et c'est ce qui diffère du récit historien ou de celui qui écrit ses mémoires, du romancier qui, lui, a le droit d'inventer. Et on a beaucoup discuté de ces questions-là quand sont apparus des faux.
Oui, le faux.
Wilgominski,
Les faux carnets d'Hitler, etc.
Et voilà, les faux carnets d'Hitler. Mais non, les faux autobiographiques. Et c'est ce qui m'avait intéressé dans Javier Cercas, dans L'imposteur. C'est cet imposteur, Hendrik Marco, qui se fait passer pour déporté, jusqu'à être président de l'association des déportés d'Espagne. Donc, c'est ça, le pacte autobiographique, c'est que l'auteur dit au lecteur, ben voilà, ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie, c'est pas un roman, c'est pas une histoire inventée.
Votre livre Tombeau, dont on est en train de parler, est une histoire vraie, c'est pas une histoire inventée, donc c'est une autobiographie, dans le sens que l'on vient de définir. Et le personnage principal, c'est un personnage auquel vous auriez voulu déjà depuis très très longtemps consacrer un livre. C'est votre grand-père, Wolf Wieworka, un personnage baroque, haut en couleur, un écrivain yiddish, qui cristallise en lui toute une culture et toute une époque. Il crée des journaux, il écrit des nouvelles, rêve d'être le Maupassant yiddish, je vous cite, et est un immense admirateur de Charlot. Vous racontez qu'il allait voir le film presque tous les jours. Il a rencontré plusieurs fois Chagall, qu'il interviewa, et Soutine, et tous les peintres fauchés de Montparnasse. Parlez-nous de ce grand-père, Annette Wieworka.
Ce grand-père donc était né en Pologne, comme mon autre grand-père. Et ce qui m'a aussi impressionné, c'est de voir comment on pouvait sociologiquement être identique et si différent. Donc lui, il part, il quitte la Pologne, pas du tout parce qu'il fuit l'antisémitisme ou la misère. Parce que la misère, il la rencontrera sa vie durant en France. Et c'était pas la chose principale pour lui, parce qu'il veut être écrivain. Donc il naît dans une famille racidique, il fréquente la yeshiva, probablement à Zenstorov, et il part vers les Lumières, en fait. Et il n'est pas tout seul à faire ça, c'est toute l'école des peintres de Montparnasse, c'était pareil, c'est-à-dire c'est des gens qui voulaient créer et qui ne pouvaient pas créer dans le milieu traditionnel, voilà. On a ça dans la série Les Stiesel, on le voit très bien. Donc c'est ça qui le fait partir. Sur le chemin, il rencontre une femme, laquelle est partie de Pologne aussi, qui est mère de 3 enfants, 3 filles. Ils se mettent en ménage et ils ont 2 garçons. L'aîné, mon père, Abraham, et le frère de mon père, Ménérem. Et là, ils vivent une vie de, alors on peut dire de bohème. C'est sympa quand on dit de bohème, mais une vie qui devait quand même être très dure. Ma grand-mère, qui était très probablement analphabète, mais éperdue d'admiration pour son écrivain de mari, assumant la vie matérielle en ouvrant des restaurants en chambre jusqu'au moment où ils ouvrent ce restaurant au rendez-vous des étudiants, qui doit être à peu près à l'emplacement de l'église libanaise rue d'Ulm. La rue d'Ulm n'est pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
Il y avait déjà l'école normale supérieure.
Il y avait déjà l'école normale supérieure, mais c'était ils habitaient rue Mouffetard, qui était une rue de Toudi.
Oui. Et alors justement, avec sa femme, votre grand-mère Gittele, Wolf ouvre un restaurant rue d'Ulm, dans le 5e arrondissement. Un restaurant, mais surtout, il faut dire, je crois, un lieu de rencontre pour la culture yiddish et la littérature yiddish et les écrivains. C'est un lieu de partage. Aussi pour les passionnés d'échecs, même le menu était littéraire, en tout cas par l'exercice de traduction que votre grand-père faisait, oui. Parce que traduire en yiddish la tétine de veau, c'est assez compliqué.
Oui, oui, oui. Escalope espagnole, ça devenait, mais surtout les choux de Bruxelles, j'aime bien, c'est, je me souviens plus Bruxelles Keller, l'espèce de transposition en yiddish que mon écrivain de grand-père faisait tous les jours d'un menu qui coûtait très peu, et qui faisait aussi que quand les gens n'avaient pas de quoi payer, on leur faisait crédit, ce qui a assuré la faillite assez rapide de ce restaurant. Mais ce qui est étonnant, c'est que à la fois dans la mémoire de mon père, mais aussi dans la mémoire de tous les écrivains yiddish, on a le sentiment que ça a duré des années et des années, tellement ce restaurant a été mythique. Et il y avait aussi des femmes peintres qui venaient dans le restaurant. Mon père avait 10 ans à l'époque. Mon père m'avait dit, oui, j'ai eu la chance d'avoir ce projet très tôt. Donc j'ai fait une série d'interviews familiales des années 80 de personnes qui n'étaient plus là quand j'ai voulu écrire ce livre. Donc il disait de cette femme peintre, Esther Karp, qu'elle était un peu folle. Et l'œuvre d'Esther Karp est réapparue. Il y a une petite exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et effectivement, elle a survécu parce qu'elle a passé beaucoup de temps internée dans des hôpitaux psychiatriques. Donc, ce qui m'a frappé aussi, c'est la justesse de la perception de que mon père avait des choses. Et d'une façon plus générale, une remarque quasi méthodologique, c'est que les témoins, quand ils ne sont pas fabulateurs, il y a des témoins mythomanes, mais quand ce sont des gens honnêtes, finalement, leur témoignage, quand il peut être vérifié par l'archive, est généralement exact. Et que l'archive aussi peut dire des choses inexactes. Parce que l'archive est chose humaine, et par exemple, ce qui est consigné en matière de demande de carte d'identité ou autre, c'est souvent un peu farfelu, parce que l'immigrant qui fait une demande pour avoir des papiers. Et par exemple, on évoquait la semaine dernière le mémorial de la déportation des Juifs de France de Serge Larsfeld. Quand ce mémorial est paru, j'ai vu que mon grand-père, Wolf Wiewiórka, était né à Minsk. Et j'ai dit à mon père, tu m'avais jamais dit que ton père était né à Minsk. Mais il dit pas du tout, il n'est pas né à Minsk. La preuve, je peux te montrer les vrais faux papiers. Donc j'ai comme preuve qu'il n'est pas né à Minsk des vrais faux papiers. En l'occurrence, un magnifique passeport russe écrit en cyrillique avec un sceau en cire. Et ce que j'ai compris, c'était que c'était des vrais papiers établis sur des fausses déclaration. Voilà, donc ça permet de réfléchir un peu au rapport entre le témoin et l'archive.
Et alors parfois il y a aussi le romancier qui amène des informations honnêtes et justes. Je pense à un personnage que vous citez souvent dans le livre, c'est Benjamin Schlevin, dont le grand œuvre « Les Juifs de Belleville » vient de sortir dans une traduction intégrale par Batia Baum et Joseph Strasburger.
Je n'ai pas encore lu la nouvelle traduction, mais Benjamin Schlevin, qui était un ami de mon grand-père, mais que j'ai encore rencontré et interviewé parce qu'il a survécu à la guerre et il est décédé, je pense, peut-être dans les années 80, je sais pas la date exacte. Mais il écrit Les Juifs de Belleville. Je ne suis pas sûr que ce soit dans ce livre, mais ou plutôt dans un autre roman qui doit s'appeler Les Ombres de Montparnasse, où il évoque la figure de mon grand-père, où il évoque le restaurant qu'il n'a pas connu, parce que lui, c'est une immigration un peu plus tardive. Il était communiste, comme son ami poète Schulstein. Et c'est vrai que les romanciers permettent de peindre aussi une vision de la société qui a une grande valeur aussi pour les historiens.
Wenn ich der Mann sich in meine Kinderjugend pinkt wie ein Hulem, wird mir alles vor. Wie seht euch du Stiebele, du Sibiglatz, in du Zweimale, wo sie hab gepflanzt, oi, oi, steht alle Bels, mein Heim, alle dort, ich hab meine kindliche Jugend verbracht. Oi, 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 Bels, Kinder ich Jahre verbracht. In Schabes pflege ich laufen mit alle in Galach gleich. Sitzen hinter die grünige Bäume, warfen Steinballach im Teich. Oi, 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 Bett. Mein Heim, alle dort, wie ich hab meine kindliche Jugend verbracht.
Dalila, ici dans un chant yiddish traditionnel intitulé Belz, Mein Städtele Belz, mon petit village, Belz, c'est son nom, dont voici le début des paroles en français. Belz, ma petite ville, quand je me remémore les années de mon enfance, comme un rêve, il me semble voir encore la petite maison qui brillait autrefois de mille lumières. L'arbre que j'avais planté jadis, grandit-il encore aujourd'hui ? Annette Vivorka, le shtetl, la petite bourgade juive, joue un rôle fondamental dans la mémoire collective et individuelle de tous les personnages de votre récit. Et l'une des autres strophes est particulièrement révélatrice, je la lis en français. Vous avez un jour vécu à Belz, mon village, où dans la maison si pauvre, on riait avec tous les enfants, où chaque Shabbat, je courais avec tous les garçons pour s'asseoir sous l'arbre verdoyant et lire près de la rivière. Fin de traduction. Le shtetl est un lieu où il y a des livres, où la lecture est fondamentale, ce que l'on retrouvera dans tous les cercles juifs d'avant et après-guerre, à Paris et ailleurs, une centralité de la bibliothèque que l'on retrouve aussi dans l'un des centres à Paris, le centre MEDEM, dont vous parlez longuement.
Oui, on le quitte, le shtetl. Et quand on lit les nouvelles de Wolf Wiewiórka, de mon grand-père, qui viennent d'être rééditées en poche au Seuil, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de nostalgie du shtetl. Il y a notamment une nouvelle qui s'appelle « Le Kfas de chez nous », où il y a quelqu'un qui est devenu très très riche, très opulent, et qu'il faut absolument qu'il reboive ce breuvage dont j'ai fait l'expérience. J'en aurais pas eu la nostalgie, je crois, qui retourne dans son shtetl pour boire ce breuvage et qui est déçu. Donc, il n'y a pas de nostalgie, mais de façon consciente ou non consciente, il y a quand même une translation des valeurs du judaïsme traditionnel dans le monde séculier, et notamment la place centrale du livre. Pour mon grand-père, c'était vraiment écrire le livre qui était au cœur et au centre de sa vie, et puis cette idée qu'il fallait immédiatement faire des lieux culturels. L'histoire de la bibliothèque MEDEM, qui vient de la bibliothèque du syndicat des casquetiers, enfin, qui a une longue histoire, montre que chez les artisans juifs, je ne sais pas si on peut parler de classe ouvrière, on lisait. Il y avait un nombre très important de journaux, trois quotidiens yiddish avant-guerre, plus d'autres publications, des théâtres yiddish, c'est-à-dire dès qu'ils arrivaient, ils mettaient sur pied une vie culturelle. Et parfois, je me dis que c'est quelque chose qui s'est peut-être transmis aussi dans notre génération d'après-guerre.
Alors, je pense que ça s'est transmis, mais je voudrais revenir un petit peu sur Dalila que l'on vient d'entendre, qui est l'une de vos amies de longue date, et sa manière de transmettre la culture yiddish aurait plu à votre grand-père Wolf et toute sa génération, car le yiddish était pour lui et pour eux plus qu'une langue, plus qu'une culture, presque une religion, et avait même une dimension politique. Je pense à l'anecdote avec Itzik Manger que vous rapportez. Être juif, pour Wolf Wiewiórka, votre grand-père, c'était tout d'abord parler yiddish, cela dit beaucoup.
Oui, oui, oui. Et il appartenait à ce courant qu'on pourrait qualifier de nationalisme diasporique. C'est-à-dire ce courant qui pensait qu'il fallait vivre là où on était, en Pologne ou en France, développer une culture. Cette culture était fondée sur la langue yiddish, et être juif, c'était parler yiddish. Dalila, il y a quelque chose d'actuel dans sa musique, mais il y a aussi cet attachement à ce monde disparu qui est le monde du yiddish. Et elle a maintenu la chanson yiddish au cours des décennies.
Tout le monde ne parle pas yiddish, mais les valeurs de votre grand-père, Wolf Wieworka, sur la judéité, au-delà du yiddish, quelles étaient-elles ?
C'est difficile. Il venait d'un milieu religieux. Il n'était pas anti-religieux, mon père non plus d'ailleurs. Mon père disait « je suis a-religieux », mais jamais on les entendait bouffer du rabbin, pour utiliser une expression un peu triviale. Donc il y avait un respect de la tradition, il y avait une très bonne connaissance de la tradition que mon père avait aussi, et en même temps, la vie dans le pays où il vivait, quoi. Et quand on regarde la différence entre la génération de mes grands-parents et la génération de mes parents parlant en français sans accent, on voit deux choses. D'abord que c'est des générations différentes par rapport à la France, mais surtout que la Shoah nous a privés, nous, d'avoir ce lien vivant avec cette culture. Quand j'étais plus jeune, j'avais cette nostalgie. C'est-à-dire, je me disais, si mes grands-parents paternels avaient vécu, ma vie aurait été différente. Je le pense toujours, mais maintenant que je suis moi-même grand-mère, c'est le genre de pensée que je ne peux plus avoir.
Mais vous avez vous-même fait ce retour à la langue yiddish en essayant de l'apprendre, de la maîtriser déjà,
oui,
depuis très très longtemps.
Oui, je réussis un peu à lire, mais c'est pas une langue vivante pour moi.
Mais la musique permet, je dirais, de vivre avec cette nostalgie.
Absolument.
Avec des chants comme ceux de Talila ou
absolument
la musique klezmer. Alors on a beaucoup parlé de votre grand-père Wolf Wieworka, mais les familles, c'est aussi la famille de votre mère. La différence entre les deux familles reposait surtout sur une différence politique. Si j'ai bien compris, communiste chez les Perelman et socialiste chez les Wieworka. Et cela se traduisait avant la guerre aussi dans la fréquentation des clubs sportifs respectifs sur lesquels vous insistez beaucoup. Je crois que l'on n'imagine pas à quel point la politique avait une place dans ce monde yiddish d'avant-guerre, en Pologne, dans toute l'Europe et à Paris, où il était venu s'installer.
Absolument. Donc la différence, elle est politique. Mon père et son frère vont au Skif, au mouvement de jeunesse des socialistes juifs. Du côté de ma mère, on va au YASK, Yiddish Arabiker Sport Club. Mais je crois que la différence, elle est aussi dans la sociologie. C'est-à-dire que ma famille maternelle, mon grand-père est tailleur, c'est un peu la famille typique tailleur, avec aussi une ambition sociale qu'il n'y a pas dans ma famille paternelle, et qui va s'exprimer par un changement de quartier, aller s'installer, se mettre à son compte, ne pas être dans la confection, se mettre à son compte et être dans un quartier qui n'est pas un quartier de pauvres juifs comme Belleville ou la Goutte d'Or.
On pourrait dire que d'un côté, il y avait une famille de tailleurs, de marchands, une famille d'affaires, et de l'autre côté, une famille d'intellectuels. Je sais que le mot intellectuel n'est pas toujours celui que vous voulez revendiquer, parce que je vous ai entendu dire « moi je suis historienne, je ne suis pas intellectuelle ».
Bon, alors je le revendique pas, parce que l'intellectuel s'exprime sur tout. Moi, j'essaye de m'exprimer sur ce que je connais. Mais oui, une famille quand même d'intellectuels. L'autre, une famille d'affaires, c'est beaucoup dire. Mais une famille pour qui le niveau de vie importe, oui.
Ma dernière question concerne votre nom de famille. Comment interpréteriez-vous ce texte de Kafka intitulé « L'escalade ou la grimpe » qui est l'histoire d'une petite écureuil? Texte dans lequel le mot écureuil est écrit en hébreu et en caractère hébraïque. C'est le seul cas dans toute la littérature de Kafka que dans un récit, il écrit en hébreu le mot snaït, qui veut dire l'écureuil. Ma question repose sur le fait, bien sûr, que Wieworka signifie écureuil en polonais et dans la majorité des langues slaves, avec quelques petites variations, et même en yiddish, Wieworka, en yiddish. Vous avez d'ailleurs écrit un livre portant le titre « L'écureuil de Chine ». Voici le texte de Kafka. « L'escalade, snaït, c'était un écureuil femelle, une petite créature sauvage qui croquait des noix, sautait, escaladait, et sa queue touffue était célèbre dans les bois. Cet écureuil était toujours en voyage, toujours en quête. il ne pouvait rien en dire. Non que la parole lui manquât, mais il n'avait pas le temps pour cela, pas la moindre seconde. Annette Vivorca.
Vous me faites un cadeau en me faisant connaître ce texte que je ne connaissais pas. Peut-être que ça me va assez, cette description d'écureuil. Et je vais relire le texte dès que je rentre.
Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a l'itinérance, il y a le voyage, et puis il y a le fait de croquer les noix, c'est-à-dire peut-être d'une certaine manière essayer de, quand il y a quelque chose comme une écorce, la casser
à l'intérieur,
oui, un petit peu
raison.
Comme vous faites pour les archives.
Vous avez raison, c'est-à-dire essayer de pas se contenter de l'apparence, mais d'essayer d'aller au cœur des choses, oui. Oui, oui.
Merci Annette Vivorca pour ces 2 semaines de conversation enthousiasmante. Je rappelle le titre du livre que nous avons évoqué aujourd'hui, Tombeau, autobiographie de ma famille aux éditions du Seuil. Un vrai cadeau pour l'intelligence et le cœur et pour l'histoire avec un grand H. Je rappelle aussi le titre du livre que nous avons évoqué la semaine dernière, Itinérance, un ouvrage tout aussi remarquable. C'est aux éditions Albin Michel. Merci encore Annette Vivorca.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Océane Dias. À la réalisation, Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Koltouv, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.